un événement spécial qui permet de découvrir le patrimoine artistique et la collection de la ville de Montréal. Je suis absolument ravie de me trouver présentement en compagnie de deux personnes qui peuvent me présenter ce projet d'importance. Alors, on a à mes côtés M. Claude Brault, muséologue au service de la culture, division du développement culturel, et Madame Caroline Richard, agente de développement pour l'Ouest, pour les trois maisons. Bienvenue.
Merci, merci.
Bienvenue, M. Claude Brault.
Merci à vous, merci.
M. Claude Brault, avant qu'on parle de l'exposition spéciale qui est en cours, si vous nous présentiez la collection, on ne la connaît pas beaucoup, on ne la connaît pas suffisamment. C'est une collection qui a un volet historique, donc si vous nous présentiez d'abord cette collection à laquelle vous tenez beaucoup, je crois.
Ben oui, tout à fait. Depuis maintenant presque une vingtaine d'années, je me trouve responsable du patrimoine artistique à la ville. Oui. Donc, en démarrant comme agent de développement culturel au début des années 2000, on s'est préoccupé de professionnaliser, je dirais, l'intérêt pour la collection en trouvant les ressources et les équipements pour s'assurer, a priori, la seule chose qui est importante d'une collection, c'est de la conserver. Alors, il a fallu, pour cela, s'associer dans la Société des directeurs de musées montréalais, avec d'autres musées montréalais, à préparer un lieu qui était capable de recevoir les collections et de les conserver dans des réserves muséales qui répondait à des normes qui nous assuraient qu'on faisait désormais une conservation permanente à des conditions idéales pour le faire.
Et où est-ce situé ce lieu?
Le lieu reste d'une certaine façon anonyme, on tient.
Oui, avec raison.
Libruité, puisqu'il y a là plus d'une douzaine de musées montréalais et que les réserves sont tenues à l'anonymat. Je ne sais pas qui sont mes voisins dans ce lieu, mais tous, tout un chacun, s'assure de trouver là la conservation de ces collections. Alors, c'est une façon, c'est le premier outil d'une collection, c'est de s'assurer sa conservation avant de la faire vivre à nouveau par les acquisitions et ultimement en la diffusant, qui est le troisième volet de la collection.
Volet auquel vous tenez beaucoup, hein, puis vous pouvez vous en donner à cœur joie présentement avec un événement spécial organisé. Mais cette collection, si vous nous l'avez présentée, il y a un volet historique qui date de longtemps, qui est très en lien avec l'histoire.
Ben oui, le patrimoine artistique historique doit être aussi qualifié quelque part. Alors, il a fallu le reconnaître à un moment donné, et c'était sous les impératifs des tout premiers maires qui ont fondé la ville de Montréal. C'est pas la ville à ses origines, mais la ville a démarré avec le premier maire, Jacques Vigée, qui fait que lui-même était un amateur éclairé, je peux dire, de son époque, des Lumières, et qui a commencé à vouloir considérer le collectionnement, spécialement en représentant ses pères. Alors, on a des tableaux merveilleux, des premiers maires présentés presque comme des lords maires à la londonienne, en pied, présentés comme des vice-rois, finalement, avec tous les attributs de leur statut. Alors, c'est intéressant de pouvoir les conserver, de voir l'évolution à travers le temps du politique, comment est-ce que l'œuvre d'art était associée au prestige du pouvoir et que tranquillement, on est allé, avec l'évolution historique, à commencer à collectionner des paysages montréalais. Et c'est comme ça qu'on a nos premières gravures des collections historiques montréalaises et ensuite un fonds, pour le signaler spécialement, le fonds Georges Delfosse, un peintre secondaire de l'histoire de l'art traditionnel, si on peut dire, mais qui était tout de même très intéressant puisqu'il était déclaré peintre du Vieux-Montréal et que nous avons en collection un fonds du début du 20e siècle. Lui est décédé en 1939 et sa veuve nous avait cédé une grande partie de sa collection.
Générosité.
Ben, c'était pas tant généreux qu'un échange de bons procédés. On dit qu'elle a payé ses impôts avec des tableaux de son veuf mari. Alors, c'est assez intéressant pour ça. Et les tableaux, finalement, ont été pendant plus de 50, 60 ans présentés dans les bureaux de l'Hôtel de Ville. Et ils ont eu à subir les affres de la société d'alors. Alors, 50 ans de nicotine, ça vient vous recouvrir le vernis. Alors, finalement, les premières
actions... Qui dit collection dit aussi entretien des œuvres.
Ben oui, justement. Donc, la conservation, qui est le deuxième élément, il y a celui de les conserver dans un lieu et ensuite de les restaurer pour leur assurer leur pérennité. Alors, je dirais qu'en professionnalisant la démarche pour la collection, il a fallu, au-delà des premières étapes de l'histoire, faire un inventaire et ensuite s'assurer de faire la restauration. Et c'est comme ça qu'on a un peu infléchi notre administration à être sensible au patrimoine historique et à décider donc de les contenir dans des espaces dédiés, ce qui coûte quand même des frais de faire la restauration, mais ce qui nous assure d'avoir désormais un patrimoine qui va passer à travers le temps. Et aujourd'hui, on commence avec nos programmes, ce que nous célébrons dans les lieux où nous sommes maintenant, les maisons de la culture où l'on les présentons. Ce sont les prix d'excellence en arts visuels et en métiers d'art dont on
se... remonte dans le temps, M. Claude Brault, c'est que si on remonte dans le temps, maintenant, la collection est grandissante. Hein? Maintenant, oui, la collection s'élargit avec des œuvres d'art contemporaines. Oui. Alors, si vous nous présentez cette nouvelle étape...
Oui. Bien, on peut dire que même plus que contemporaines, elles sont aussi actuelles. Alors, les moments charnières de notre histoire remontent en gros à l'époque de l'Expo 67, donc la modernité. Et nous avons à ce moment-là reçu des cadeaux du monde entier, dont les fameuses...
Oui, quelle époque.
Oui, mythique. Absolument. Oui. Mais c'est qui fait que justement, en s'ouvrant au monde, on s'est ouvert à l'art d'alors et à la modernité. Donc, on est aussi des collectionneurs d'art moderne et contemporain. On a pour cela reçu de la France et de compagnie Alors de Tabac, de Rothman, des collections de tapisseries au buisson, qui sont des tapisseries des manufactures royales historiques françaises et qui, eux autres aussi, en cherchant à moderniser leur image, ont demandé aux artistes célébré dans les années 60, de faire des cartons, ce qu'on appelle, qui sont les modèles de ce qui deviendront de grandes, immenses tapisseries faites par les manufactures royales et ensuite transposées dans la modernité. Alors, un sujet moderne, il est présenté dans les bateaux comme le paquebot, le France. On les a vus un peu partout et on en a maintenant un témoignage en les conservant ici. On les présente à l'occasion tout de même. Et un grand saut dans le temps pour dire que des années 60, 50 ans plus tard à aujourd'hui, on célèbre maintenant les acquisitions d'œuvres d'art actuelles à travers deux prix en art visuel, le prix Pierre Ayotte et le prix Louis Comtois, dont on présente une sélection des œuvres ici à la Maison de la Culture Notre-Dame-de-Grâce ainsi qu'au Centre culturel Notre-Dame-de-Grâce. On a une
sélection. Vous aviez donc, si vous me permettez, dans le fond, je m'adresse aussi à Mme Caroline Richard ici, à mes côtés. Bonjour Mme Caroline Richard, agente de développement, si vous pourriez me présenter la genèse de ce projet vraiment d'intérêt, là, réunissant trois maisons de la culture.
Ça part d'abord et avant tout par un amour inconditionnel pour les arts visuels. La Maison de la culture de Côte-des-Neiges que je pilote a toujours soutenu les artistes en arts visuels et lorsque j'ai parlé avec Claude de ce patrimoine, de ce trésor municipal...
C'est le mot que j'avais en ce moment, M. Claude Brault, le trésor.
Trésor municipal, dispersé aux quatre coins de la ville, hein, dans les bureaux municipaux, dans des installations sportives, culturelles, les bibliothèques. On s'est dit, on doit faire rayonner ce trésor-là, on doit aussi assurer sa pérennité et on se doit aux citoyens, parce que je travaille d'abord et avant tout pour les citoyens, de leur faire connaître les artistes, les œuvres et cette collection dans son ensemble. Ouais. Alors, évidemment, on pouvait exposer l'ensemble de la collection avec le patrimoine historique. On a fait un choix. Alors, on célèbre cette année les 20 ans des prix d'excellence, les prix d'excellence en métier d'art, avec le prix François Houdet, exposé au Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce. Et nous célébrons également les 20 ans des prix d'excellence en art visuel, tel que M. Brault le dit. Donc, Louis Comtois, qui célèbre la mi-carrière d'artiste exceptionnel, ouais. Et aussi la relève, parce que la relève, c'est très important, donc avec le prix Pierre Ayotte à la Maison de la culture de Notre-Dame-de-Grâce. Alors, à ce premier volet de prix d'excellence s'ajoute à la Maison de la culture de Côte-des-Neiges le plan d'acquisition d'œuvres d'art du réseau Accès Culture. Je pense que M. Brault pourrait...
C'est peut-être M. Claude Brault prendre la relève pour parler de ce fameux plan d'acquisition des œuvres d'art de réseau Accès Culture, PADORAC.
Hein? Dont l'acronyme est le le Padorac, familièrement, ça ne veut rien dire, c'est un peu curieux, mais le Padorac, finalement, reconnaît l'expertise particulière et, pour ainsi dire, unique en Amérique d'avoir un réseau d'agents culturels qui sont des agents diffuseurs, qui chacun, dans les 24 lieux que nous occupons à travers toute la ville, toute l'île de Montréal, diffusent une programmation artistique dont ils sont eux-mêmes, chacun,
les représentants.
Les représentants, oui. Et qui connaissent bien le profil socio-culturel de chacun de leur arrondissement. Et c'est en cela qu'on a une sorte d'évocation, une tranche de l'art de ce qui se fait aujourd'hui, très variée et qui s'étend à près de 200 expositions par année. Ça veut dire quand même près de 1000 artistes exposés. Et je vous dis pas le nombre d'œuvres en conséquence à considérer. Le plan d'acquisition qu'on a créé il y a 5 ans, dont on célèbre justement le 5e cette année, ici à la Maison de la culture Côte-des-Neiges.
Alors voilà peut-être une raison d'organiser cet événement spécial. Il y a un anniversaire.
Oui, c'est cela. On veut le souligner parce que c'est assez particulier de collectionner l'art d'aujourd'hui pour en faire le patrimoine de demain. Alors, c'est toujours un peu notre préoccupation. On fait des acquisitions d'œuvres qui ont toutes été présentées à travers la programmation artistique du réseau. Donc, toutes les œuvres ont d'abord été vues par les citoyens et avec un comité art visuel chargé dans le réseau, on fait une sélection d'expositions et ensuite, on a un comité d'acquisition avec des membres...
Mais il y a vraiment un critère qui s'étend tout le réseau. C'est sur des œuvres qui ont déjà été vues par le public.
Absolument.
Ça touche à la prochaine question.
C'est vrai. Et aussi, en conséquence, c'est que ce n'est pas le dada d'un seul conservateur ou des élus du moment.
Il y a un souci démocratique.
Oui, un souci démocratique, une expertise. Et en même temps, c'est que l'art qu'on achète des lieux dédiés à la présentation des arts visuels est pourtant exposé ensuite dans des lieux qui ne le sont pas. Alors, c'est comme
ça. Il y a une devise importante pour vous, hein?
Oui, moi, je dirais
laquelle?
Un petit motto, c'est en fait, c'est vrai de dire que l'art pour tous, à tous les jours. Donc, pour tout citoyen.
Rendre accessible l'art.
Oui, justement. Et pas dans des lieux où est-ce qu'il serait intimidé par une connaissance pointue qu'il n'aurait peut-être pas, comme on peut le faire à l'occasion en étant un peu sur sa... avoir une clientèle trop contenue à l'intérieur de seulement des lieux dédiés comme les musées et les galeries. On peut penser que nous, on en fait la diffusion partout, là où vous allez payer vos contraventions et vos taxes, mais aussi où vous allez en bibliothèque.
Faut un peu d'humour.
Oui, dans des mairies d'arrondissement, des centres sportifs, des endroits inattendus, insolites, où l'art a le droit d'être présenté aussi. Et ça vient dire à tout le monde que l'art est accessible pour tous, peu importe qui vous êtes et où que vous soyez. Alors, c'est ça qui est aussi particulier, c'est qu'on n'exige pas des lieux dédiés uniquement, mais vraiment pour tout le monde. Alors, à l'hôtel de ville, quand vous allez payer votre contravention, ben, vous pouvez voir l'art aussi du moment, l'art actuel.
Alors, écoutez, c'est vraiment un mandat d'importance que vous êtes donné. Maintenant, si on parlait, parce que ça, c'est un dossier qui vous tient à cœur aussi, hein? Vous venez de parler de votre devise, la diffusion. La diffusion, est-ce que cette collection-là est suffisamment diffusée selon vous?
Ben,
on a un anniversaire cette année, c'est extraordinaire.
Ben,
on a une agente qui s'est impliquée grandement et activement, mais est-ce que c'est...
Oui. On lui doit reconnaissance pour cela. Oui. Mais c'est vrai que, ultimement, je vous dirais que l'intérêt à collectionner, ben c'est pas seulement des acquisitions et de la conservation. Il faut aussi trouver des leviers de diffusion. Et pour cela, en l'ouvrant au grand public, en le montrant, en faisant une sélection, ben ça vient à travers un anniversaire, trouver un prétexte pour la présenter enfin. Et même pour moi, comme conservateur, mes collègues, on voit les œuvres enfin rassemblées dans un lieu et c'est exceptionnel puisqu'on n'a jamais eu l'occasion de les voir réunies. Le fruit des acquisition étant annuelle, on a toujours l'arbitraire de les accumuler, mais rarement l'occasion d'en faire un geste significatif dans une exposition. Alors, c'est véritablement un geste de commissariat qu'on doit reconnaître à notre collègue Caroline Richard comme agente culturelle, de l'avoir entretenue, projetée et finalement sélectionnée?
La sélection a été très difficile. Nous voulions
J'imagine un choix déchirant.
Un choix excessivement déchirant. Évidemment, les lieux sont quand même restreints. Nous avions 5 galeries mises à notre disposition, ce qui n'est pas rien, mais on a dû faire un choix. Déjà, à la base, nous voulions avoir un panorama, donc un survol de l'ensemble des 20 ans au niveau des prix d'excellence, au niveau des acquisitions, également au niveau des 5 ans du Padorac, les médiums, la parité homme-femme, ou du moins une certaine équité dans, au niveau de la création des créateurs, le type, donc les médiums, je l'ai dit, le type d'œuvre, les grands formats, les formats plus intimistes. Nous avons également exposé une œuvre à la bibliothèque de Côte-des-Neiges, l'œuvre de Chloé Desjardins. Donc, de sortir de nos espaces...
Artiste vedette montante.
Oui, sortir de nos espaces de diffusion pour aller à la rencontre de d'autres citoyens. Donc, ça a été un ensemble de facteurs qui nous ont amenés à faire une sélection qui était déchirante.
Je suis contente, justement, de pouvoir en parler avec vous. À quel point c'est tout un travail, c'est toute une logistique de concevoir ces expositions-là, dont on n'est pas suffisamment conscient quand on les voit, ces expositions-là, qu'on les admire, qu'on les apprécie. Mais il y a un énorme travail sous-jacent.
Au-delà même de la... Dans l'historique, on peut comprendre qu'il y a déjà eu les préoccupations au niveau de la représentation et que ça se faisait à des époques où on avait des médiums, des techniques, des disciplines, où est-ce qu'on se retenait à travers de la peinture, de la sculpture, toutes choses dans lesquelles il était toujours plus aisé de se reconnaître que dans l'évolution rapide des nouvelles technologies et que désormais on fait aussi place à la représentation de l'art médiatique, des vidéos, et qu'on aura dans l'exposition justement des dispositifs où on viendra les présenter. Alors donc
et on peut se poser plusieurs questions sur la conservation, l'entretien, la conservation, la restauration de ces œuvres-là d'art médiatique.
C'est vrai. Le transfert de leur support à travers le temps va d'une façon très rapide évoluer et on se rend compte que des œuvres acquises sur un disque vidéo sont maintenant transférées sur un autre type de support en clé USB et que maintenant la représentation de nos acquisitions les plus récentes se contient dans une toute petite boîte où on a une série de clés et que ce n'est pas du tout le type de présentation qu'on aurait pu imaginer il y a quelques années à peine. Et que pour ça, dans la sélection, on doit tenir compte des critères de nos acquisitions, de la collection. On représente des artistes en galerie, ceux qui sont dans des centres d'artistes, des jeunes, des gens déjà célébrés.
Vous nommez quelque chose d'important. Vous devez aussi acquérir dans toutes les différentes lieux, les différents lieux de diffusion.
Les circuits universitaires, les diversités culturelles, comme on disait, hommes-femmes, toutes sortes de considérations qui évoluent avec notre société et avec lesquelles on doit se préoccuper de les représenter justement au fur et à mesure des acquisitions annuelles. Pour signaler justement, en art médiatique, on aura l'occasion de voir des installations en ce moment qui sont assez signalétique et qui demande pour ça un nouvel espace de présentation qui est plus lié à seulement un alignement sur des murs, mais qui demande des salles obscurcies, des rideaux de scène,
des installations,
de l'émotion, une expérience sensorielle comme on nous dit désormais, puisqu'il faut y associer le son, des sentiments, de l'émotivité qui n'étaient pas a priori les critères d'appréciation des œuvres en beaux-arts d'une façon traditionnelle où la connaissance, l'appréciation du style, de la couleur, du goût, la perspective étaient des considérations d'une autre époque, si on peut dire. C'est intéressant d'en témoigner aujourd'hui pour voir jusqu'à quel point notre regard a changé et qu'on ne regarde plus ni n'entend plus les œuvres de la même façon. Notre premier motif, c'est de représenter l'art d'aujourd'hui, mais à des gens qui ne sont pas toujours idéalement avertis pour le recevoir. Alors la subtilité, la finesse de la programmation artistique revient justement à nos collègues agents diffuseurs à travers toutes les maisons de la culture qui tous se soucient dans une programmation annuelle de déterminer des expositions qui sont parfois des charnières
significatives
et qui viennent signaler à un moment donné, leur ouverture au plus grand public possible, et d'autres fois, à nous initier tous. Personne n'est collectionneur d'art actuel. On n'a pas les connaissances. On est toujours surpris à voir l'art d'aujourd'hui. On n'a jamais.
Vous tentez de rejoindre différents publics, là, que ce soit le grand public comme les avertis.
Oui, c'est vrai. Je pense que oui. Et c'est pour ça que les maisons de la culture, le fait qu'elles soient ouvertes, gratuites, disponibles dans des lieux centraux, partout à travers les arrondissements, à proximité de bibliothèques ou d'autres lieux de connaissance.
Et même maintenant avec un volet de médiation. Hein?
Tout à fait, ouais, tout à fait. Qui ouais. fait qu'on est capable maintenant de se substituer dans un intérêt, aller de la bibliothèque à la salle de médiation, à la salle de spectacle et ensuite à la salle d'exposition, et que tout ça fait une sorte de mitigation qui est intéressante.
Madame Caroline Richard, vous avez donc vraiment un concept d'exposition vraiment très intéressant et pertinent. Est-ce que vous prévoyez, est-ce que cette exposition-là va circuler? Est-ce que cette exposition-là pourrait, est-ce qu'on pourrait avoir la chance qu'elle devienne itinérante?
Oui. Itinérante, ça prendrait beaucoup, beaucoup de travail au niveau logistique, mais qu'elle se reproduise dans l'avenir, je le souhaite. Je souhaite qu'on mette de l'emphase, que la Ville de Montréal soit fière de sa collection et qu'elle la diffuse au plus grand nombre, au niveau des citoyens. Je souhaite aussi qu'elle rende accessibles les œuvres par des programmes de médiation. Donc ici, évidemment, il y a tout un programme qui est rattaché à l'exposition.
Public de s'approprier les œuvres d'art exposées.
Quel que soit l'âge. Ouais. Donc nous ici, par exemple, on va travailler avec les tout-petits, les 2 ans et demi, 4 ans, sur un programme spécifique pour démocratiser les œuvres d'art, pour la rendre plus accessible. Donc on part de la petite enfance, là.
L'art doit commencer très tôt. L'appréciation de l'art, ça doit commencer tôt, hein?
Oui, l'éveil de l'amour des arts chez les tout-petits est marquant dans une vie. Et ça, on le sent avec le temps, avec le travail assidu là, sous
ça,
les
ça
différentes
peut même permettre de... que surgisse enfin une nouvelle génération de collectionneurs que nous attendons. que nous souhaitons vivement.
Pour conclure que les générations passent, mais l'art reste.
Oui, tout à fait. Peut-être juste en terminant, pour notre toute dernière question, M. Claude Brault, parce que vous semblez avoir mené plusieurs combats, quelques combats pour ce qui est de la collection de la Ville de Montréal. Quels sont les enjeux, les combats à mener pour l'avenir?
Comme muséologue, ce qui est intéressant, c'est qu'à la Ville, le titre en soi n'a pas été considéré avant que les années récentes. Alors, malgré que j'étais, moi, de la première cohorte en muséologie dans les années 92 ou quelque chose comme il y a 25 ans. Le poste en muséologie existe à la Ville, la reconnaissance du titre, depuis peut-être 2009. Alors, c'est intéressant de penser, je vous dirais que mon principal intérêt, c'est qu'au-delà de la personne qui peut quitter, d'autres arrivent à la retraite. On peut imaginer que...
C'est peut-être votre cas bientôt.
Ça pourrait être mon cas, parce que j'ai l'âge pour le faire, mais...
On souhaite que vous continuiez avec cette expertise.
Oui, ça, c'est certain. Mais oui. Il reste que, je dirais que mon principal souci, ce serait d'assurer la pérennité de la collection avec une personne qui porte le titre de muséologue dédié, professionnel dédié, à l'intérêt de la muséologie, donc conserver, acquérir, diffuser. On sent déjà dans l'évolution rapide des politiques culturelles qui sont avancées à toutes sortes de niveaux, de paliers de gouvernement. On le fait à la Ville, on le fait au Québec, on le fait au fédéral. C'est intéressant de penser que les politiques culturelles sont justement des indices révélateurs des bouleversements. Et c'est pour ça qu'on essaie d'imaginer qu'on s'avance dans le temps en assurant pour nous au moins une continuation historique et la conservation des œuvres.
Mais oui, et est-ce qu'on ose peut-être injecter des fonds pour la collection?
Ça, je vous dirais qu'en période électorale, tout est possible. On entend déjà résonner les tambours.
On aura bien des questions encore à poser, M. Claude Brault, vraiment avec toute l'expertise qu'il possède. Merci beaucoup, M. Claude Brault. Quel grand plaisir de m'entretenir aujourd'hui au sujet de cette collection sur laquelle on va enfin braquer les projecteurs quelque temps ici dans l'Ouest de Montréal dans 3 maisons de la culture. Merci, Mme Caroline Richard, vraiment de votre part et surtout d'avoir pensé ce projet-là, vraiment d'intérêt très original.
Et spécialement pour une durée exceptionnelle jusqu'au début novembre. Donc, je pense que ça se termine le 5 novembre. C'est le jour des élections.
Ce n'est peut-être pas un hasard, mais je suis contente que cette exposition-là soit extensionnée. Alors, Mme Caroline Richard, rappelez-nous les dates des expositions.
Alors, le prix d'excellence François Audet est présenté au Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce jusqu'au 5 novembre. Les prix d'excellence Louis Comtois et Pierre Ayotte à la Maison de la culture de Notre-Dame-de-Grâce sur Botrel jusqu'au 5 novembre également. Et à la Maison de la culture, les acquisitions d'œuvres du réseau Accès culture seront présentées jusqu'au 12 novembre. Et le vernissage est samedi de 15h à 17h.
Oui, samedi 15h à 17h. Est-ce qu'il y a un autre événement aussi?
Tout à fait. Le vernissage des prix Ayotte et Comtois jeudi de 17h à 19h à la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce. On vous y attend.
De quoi faire accourir le public et bien tous les passionnés d'art visuel. Merci à vous deux.
Merci à vous.
Merci.